tu t'installes, tu t'es, t'as rendu un peu la chaîne
ou non? Non, non, c'est bon. Ok. Ah, super, Martin. Ah, j'ai cru que c'était du champagne. C'est juste une bouteille de...
Vous voulez un verre d'eau, Pierre, ou un jus de pomme?
Pour le moment, ça va très bien. Merci beaucoup.
Le Zoom, tu l'as lancé?
Merci.
Ouais.
C'est bon.
Alors, vous en faites quoi de ces films de ces...
On diffuse sur un site internet, on diffuse en vidéo également, parce qu'on retrouve film. Et sur des PDF aussi.
PDF, ça veut dire
c'est
quoi?
C'est des fichiers, textes, en fait. C'est des textes que les gens peuvent télécharger. Et...
D'accord. Voilà.
C'est bon, non?
C'est bon, on trouvera ça là.
Je suis souvent mis à la question.
Mais oui.
J'avoue tout de suite d'ailleurs.
Donc c'est bon, on fait plus de.
Ah oui, c'est parti.
Interview Pierre Abi.
Pierre, merci. On a une tradition ici, comme je te l'ai dit, de, quand nos amis viennent à la maison, de se saisir de ce bol que
oui.
tu as devant toi, de cette maillotche.
Oui.
Et de le faire
sonner.
De le faire sonner. C'est la petite tradition.
J'en ai un chez moi plus grand.
C'est
plus
ta,
grand
ta celui-là, discrétion.
Donc. Du bruit qui fait du silence.
Pierre, on connaît ton parcours, ton engagement depuis 30, 40, 50 ans, notamment en matière d'environnement, de sobriété, en matière de vivre ensemble. Avec ton expérience, ton recul, est-ce que tu as l'impression, on en parlait tout à l'heure, est-ce que tu as l'impression que les choses vont dans le bon sens?
Globalement non, parce que je dirais que le rapport des humains avec la planète n'est pas bon. Ils sont résolument dans l'épuisement, la destruction, la pollution. Les terres qui nous nourrissent sont tous les jours empoisonnées. Il y a toutes ces problématiques de la faim dans le monde. Toutes les 7 secondes, un enfant meurt de faim. Dans le monde, il y a beaucoup de détresse. Et même les gens qui sont dans la prospérité, qui devraient être dans un certain bonheur, ben c'est dans ces catégories sociales que l'on constate une consommation exponentielle d'anxiolytiques, c'est-à-dire qu'il y a la quête d'un bonheur comme on n'arrive pas à l'avoir. Dans notre réalité quotidienne, on va chercher des artifices pour avoir l'impression, etc. Le monde du divertissement explose littéralement, les stars, les machins, les trucs. Tout ça, ça augmente parce qu'il y a besoin de s'évader de la réalité. Et donc, on n'est pas suffisamment face à la réalité. Premièrement, je pense que l'Occident se circonscrit sur ses propres problèmes et oublie qu'il y a la planète et qu'il n'y a pas que l'Occident. Et deuxièmement, bon, ben, je ne pense pas qu'on est en train de mettre vraiment en ancrage ou en réalité un paradigme, disons, qui préparerait une société plus apaisée, plus respectueuse de la vie, plus respectueuse d'elle-même, plus conviviale, plus généreuse, etc. On voit bien que la fabrication des armements n'a jamais été aussi perfectionnée qu'aujourd'hui. L'art du meurtre prend beaucoup plus la place que l'art de vivre. Et donc, du coup, il y a un gros problème. Donc, pessimiste, optimiste, je sais pas qui disait, le pessimiste c'est un imbécile triste et l'optimiste un imbécile heureux. Ça, c'était Bernanos qui disait ça. Et je pense qu'on en est là. Il faut maintenant un certain réalisme pour voir les choses très concrètement et savoir est-ce que nous sommes capables d'infléchir l'histoire ou est-ce que nous sommes embarqués dans un bateau. Et selon la formule de Fournier, nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons.
D'accord. Les économistes, les écologistes utilisent depuis quelque temps une expression, enfin un mot qui s'appelle la croissance verte. C'est un élément de langage. C'est, pour toi, ce sont deux mots qui sont antinomiques. Croissance.
Disons qu'on invente énormément. Il y a tout un langage stratégique aujourd'hui qui a l'air de dire mais qui ne dit rien. Et très souvent, c'est ça. La première croissance verte qu'on devrait faire, c'est de foutre la paix à l'Amazonie. Arrêter de détruire déjà ce qu'on est en train de détruire. C'est pas se projeter. Parce qu'à ce moment-là, on s'installe dans ce qu'on appelle le pompier pyromane. C'est-à-dire qu'on fait les dégâts et puis après, on affame les gens, par exemple, en leur piquant tout ce qu'ils ont avec leurs salopards de chefs d'État, etc. Et puis on va leur porter des sacs de riz pour dire « Ah bah oui, vous voyez comme nous sommes généreux, nous sommes déjà... » Ça s'appelle l'humanitaire. Je suis très respectueux des gens qui ont du cœur pour aller faire quelque chose. Mais il faut de l'humanisme qui fait que le problème ne puisse pas exister. La faim ne devrait pas exister. Alors du coup, on est constamment dans cette espèce d'ambiguïté entre le problème et la solution. Et du coup, on ne prend pas les choses comme elles devraient être prises.
La croissance verte, c'est un élément de langage, c'est juste pour habiller
business. Ça résonne. Ça veut dire la croissance verte, ça résonne quoi? Non, je pense que le citoyen d'aujourd'hui, dont le cerveau aussi a muté, il est passé par une organisation du monde, de la société surtout au monde d'Occident, ce qu'on pourrait appeler que l'être humain aujourd'hui est mis hors sol. C'est la concentration urbaine, c'est l'éloignement de plus en plus des réalités naturelles. Donc l'individu est hors sol pour des raisons historiques, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre, etc. Et on a monté ces immeubles gigantesques dans lesquels on a rangé le matériel humain. Et les gens ont été entraînés dans la logique de l'industrialisation à outrance et du capitalisme débridé. Donc on est là-dedans. Alors, parallèlement au fait que nous dégradons, on a développé un langage, un vocabulaire et un langage qui semble dire les choses, mais qui en fait c'est le langage aspiré, c'est-à-dire c'est pas le langage qui amène à l'ouverture. La première chose, si on était conscient et dans la volonté absolue de vouloir changer les choses, et bien déjà on changerait la pédagogie qu'on applique aux enfants. Pourquoi diable faire que les enfants des tout petits soient compétitifs? Pourquoi ne pas en faire des êtres complémentaires et non pas compétitifs? Pourquoi diable la femme est subordonnée sur l'ensemble de la planète? Et on considère que c'est presque la norme. Alors que c'est totalement anormal. La femme ne doit pas être subordonnée. Féminin et masculin doivent être dans un rapport d'équilibre. Parce que c'est à cette alliance que nous devons, chacun de nous, notre propre existence, etc. etc. Donc du coup, l'art de mystifier, l'art de faire croire que nous faisons alors que nous ne faisons rien, la COP 21 pour moi c'est ça, et tout cela c'est comment finalement produire du soporifique de façon à ce que les consciences de plus en plus s'abrutissent et ne soient plus vigilantes dans la réalité telle qu'elle doit être. Et c'est des stratégies, mais par moi je me dis, il y a peut-être Satan ou je ne sais pas quoi, parce que c'est tellement bien fait pour endormir les gens, pour faire qu'ils ne réfléchissent plus, pour leur inculquer des connaissances qui n'ont aucune valeur de vie, etc. Moi, je suis, de ce côté-là, je suis inquiet. Et donc, il y a des réformes simples à faire. Déjà, si dès maintenant on apprend aux enfants à être solidaires et non pas compétitifs, si dès maintenant on donne de la valeur à la petite fille et au petit garçon, Si dès maintenant on met tout ça, au bout d'une petite génération, il y aurait déjà une mutation extraordinaire. Et pourquoi diable est-ce qu'on n'engage pas cela? Voilà, c'est là ma question.
Dans un de tes livres, tu expliques que la moitié du territoire français est mobilisé pour nourrir les animaux. On connaît l'impact écologique de l'élevage, la consommation d'eau, le traitement des sols. Et en bout, en bout de chaîne, il y a l'humain, sans parler de l'impact sur la santé. Tu parlais des enfants, on sait que l'école est un lieu d'apprentissage. Est-ce que l'école ne pourrait pas également servir à sensibiliser les enfants sur la souffrance animale, sur et proposer déjà des menus dans les écoles, des menus peut-être sans viande, ou comme ça se fait déjà
Mais encore faut-il déjà, je suis tout à fait d'accord qu'il y a toutes sortes de solutions hein, qui pourraient être mises bout à bout et intéressantes, mais il faut savoir d'abord à quoi sert l'école. L'école, pour moi, c'est évident. On prend un enfant, on l'instruit et on en fait un adulte adapté au système. C'est tout. Ça ne sert qu'à ça. Et alors que l'école devrait être, comme je disais tout à l'heure, l'art de la convivialité, l'art de la solidarité, l'art de la justement de la reconnaissance les uns des autres. Et au lieu de cela, on amène l'enfant à regarder l'autre comme son rival, au lieu de le regarder comme son complément. Si déjà on changeait le système, l'enfant regarde l'autre, mais c'est mon complément, et non pas mon rival, déjà il y aurait un changement. Alors chacun, c'est pas la note 20, 15, 10, c'est plus une évaluation qui prenne en compte, bien sûr, qu'un être humain ne peut pas être standardisé, parce que chaque être humain a des talents dans un endroit, a moins de talents ailleurs, et c'est comment faire valoriser le talent, développer le talent de l'enfant, de façon, mais dans un esprit, ce que j'apprends, je l'apprends pour les autres aussi, je ne l'apprends pas que pour moi. Ben déjà, ça changerait les choses. Et là, on n'est pas du tout dans cela, on est dans un système qui, en partant de l'idée d'une planète qu'il faut piller jusqu'au dernier poisson, jusqu'au dernier arbre pour faire de l'argent, on aboutit à la planète au pillage. Et il y a un livre remarquable que je recommande beaucoup, c'est celui d'Osborne, qui est La planète au pillage, qui a été publié en 1947, je crois, sitôt après la guerre, et qui refait, disons, toute une rétrospective sur comment finalement, les êtres humains se sont comportés vis-à-vis de la planète qui les a hébergés. Et nous venons aussi de commettre un ouvrage avec mon ami Jean-Marie Pelt, juste avant sa disparition. C'était « Le monde a-t-il un sens ?» Donc du coup, ce qu'a fait Jean-Marie, ça a été une rétrospective sur comment la vie s'est organisée sur la planète. Que de la coopération et que de la solidarité. C'est-à-dire que tous les éléments constitutifs du système vivant sont des éléments qui se regroupent pour que la vie puisse se déployer. Mais dans une posture qui n'est pas celle du pillage. Je dis souvent aux gens que quand on fait des comparaisons, la fameuse loi de la jungle, mais non, c'est pas vrai. Je dis souvent, un lion, quand il mange une antilope, il digère son antilope, mais il n'a pas de banque d'antilope ni d'entrepôt d'antilope pour vendre aux copains. Il n'y a aucun prélèvement excessif par rapport aux besoins. Et le pauvre vieux, il est lion et il faut bien qu'il mange. Et l'antilope, elle mange l'herbe, mais l'herbe est vivante aussi. Et peut-être que l'herbe aussi, etc., etc. Donc c'est les processus de la vie et non pas les processus de l'accaparement et de la dissipation. C'est l'être humain qui a amené l'accaparement, la dissipation et la dualité. Et la dualité, c'est-à-dire qu'il a introduit dans sa relation toutes les dualités raciales, culturelles, etc. Ce qui nous vaut cette planète convulsée en permanence par cette violence humaine, ces égorgements et le fait qu'on donne beaucoup plus d'importance à perfectionner les armes et l'art de tuer qu'à s'occuper de la vie. C'est-à-dire que pendant que la vie, elle, on la néglige, Et on a, non seulement on a l'église, mais on l'a détruit, il y a des cerveaux qui s'intéressent simplement à l'art de la destruction. C'est-à-dire que, et qui inventent des armes toutes plus horribles les unes que les autres, en étant très fiers. On a même des salons hein, où on va regarder le matériel à tuer. Mais où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes en termes d'élévation de conscience? Nous ne sommes pas. Je dis souvent, si des extraterrestres nous étudient, ils ne peuvent pas conclure que nous sommes intelligents. Ce n'est pas possible. Impossible. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce que ces gens-là? Ils ont une planète magnifique, ils ont tout, la planète leur offre tout. Pour manger, pour se vêtir, pour se guérir, pour se... Tout un faste extraordinaire qui devrait instaurer non seulement la paix, mais le bonheur absolu.
Pour parler d'élévation des consciences, comme tu dis, et de violence, on a l'élection présidentielle l'an prochain, et on sent déjà cette violence, on sent que l'élévation des consciences, ça ne va pas être pour cette élection. On serait tenté de dire Pierre Rabhi président, presque.
On est au cœur d'une chose que j'ai expérimentée en 2002. En 2002, on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles. Bon, ça m'est tombé comme une tuile sur la tête parce que moi, j'étais pas du tout dans cette intention. Pas du tout, pas du tout. Pression sur pression, oui, il faut que tu te présentes, etc. Bon, alors je me dis, peut-être que. J'ai fini après des insomnies de me dire peut-être qu'il faut que je tente le coup. Mais qu'est-ce que je vais faire? Alors j'y suis allé, mais on a établi, c'était pas dans l'ordre de si vous votez pour Pierre Rabhi, tout ira bien. C'était pas du tout ça. C'était notre 4 pages qu'on a édité. C'était le féminin au cœur du changement. C'était bien sûr l'agriculture, c'était l'éducation, c'était la réforme de l'éducation, ce que j'ai raconté tout à l'heure par rapport à non pas à la compétitivité, mais à la complémentarité, etc. Et c'était toutes ces choses-là, l'utopie aussi, parce que l'utopie, on croit que c'est de la chimère, mais la vraie utopie, c'est elle qui fait évoluer l'histoire. C'est parce qu'il y a des utopistes qui font évoluer l'histoire. Ceux qui sont dociles, ils veulent rien changer... Par sécurité, on reste comme ça, frileux, etc. Ça, ils ne font pas bouger. Ceux qui font bouger, c'est ceux qui transgressent. Alors on les regarde d'abord en disant il est complètement cinglé, puis on s'aperçoit qu'ils avaient raison de transgresser, pas rester dans le troupeau. Voilà. Donc c'était ça notre intention politique. Phase des recherches des signatures. Alors on s'est dit, si on arrive à trouver 2 ou 3 maires en état d'ébriété pour leur donner leur signature, ça sera déjà pas mal. Et là, on a frôlé les 200 signatures d'élus. Bon. Interprétation. Ces élus qui ont donné à des berlus leur signature, c'est qu'ils partagent leur chimère ou leur folie. Donc on n'est pas si décalé que ça. Et toute la campagne, ça a été à peu près une trentaine de lieux qui se sont constitués en lieux forum civique. Les gens ne sont pas venus en disant « Ah, si on vote pour Pierre Rabhi, on va avoir ci ». Ça, c'est pas du tout ça. Ils se sont rencontrés sur les propositions qu'on leur avait faites comme base de réflexion. Donc, on s'est mis à réfléchir là-dessus. Et enfin, les citoyens se sont appropriés, accaparés leur destin. Parce que c'est eux qui ont dit, nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça. Les politiques nous disent ça, mais nous, voilà ce que nous voulons. C'est ce que je voudrais reproduire en 2017. Forum civique national. Et là, plus largement, je ne vais pas passer par la voie des 500 signatures et compagnie. Je pense que je les aurai, mais je fais quoi, 500 signatures? Je ne suis ni affilié, ni à la droite, ni à la gauche. Je respecte absolument tout le monde. Et encore moins, évidemment, à ceux que vous devinez. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Donc fais quoi? Et quand on est conscient que ce n'est pas parce qu'on va passer de droite à gauche que les choses vont changer, mais parce qu'on va élever nos consciences et amener une réflexion intelligente des choses, mais pas une réflexion réactionnelle par rapport à des à des pulsions qui sont des pulsions irrationnelles où les gens se mettent à hurler parce qu'il y a, telle personne ou telle star ou tel machin. Non, c'est véritablement la transition est grave, extrêmement grave, parce que là on joue notre va-tout. Et donc la transition étant grave, ben, il faut passer par véritablement une conscience qui s'élève et qui définit les priorités. Les priorités, c'est quoi? L'être humain et la nature. À partir de le rapport être humain et nature. Alors on dit on tue la terre, mais l'humanité, elle est prétentieuse, elle ne tuera pas la terre. La terre ne mourra pas par l'humanité, même si elle est blessée. Il y avait une petite histoire comme ça d'une planète de l'espace qui rencontre la planète Terre. Et l'autre planète regarde notre planète et dit « Ah, ma pauvre, comme tu es dépenaillé, tu es mal foutu, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Alors la planète dit bah, « Ne m'en parle pas, j'ai attrapé l'humanité. » Alors lui dit « Ah, c'est que ça ! » !»« Mais moi, je l'ai attrapé aussi, je m'en suis guéri et tout va bien. » Et c'est exactement ce qui risque d'arriver. Parce que nous sommes nous-mêmes, nous sommes tellement cons, rarement j'emploie des mots comme ça, mais là c'est vraiment le mot qui convient, que nous détruisons la vie à laquelle nous devons la vie. Donc pour aller jusque-là. L'autre jour, il y a une femme venue me demander, faire une enquête sur l'eau. Voilà, on fait l'enquête sur l'eau. Je fais une enquête sur l'eau. Ouais. Je lui dis, mais madame, vous êtes de l'eau, donc vous êtes en train de faire une enquête sur vous-même. Donc ce qui fait que cette séparation qui n'est que artificielle, la nature et nous, mais nous sommes la nature et nous sommes les enfants de la nature. Et nous, si nous n'étions pas stupides, on prendrait soin de cette mère. Quand les primitifs dirent la terre mère, eux ils ont raison. Quand le chef indien cite les Américains veulent acheter le territoire et il dit la terre ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons. Comment voulez-vous qu'on vende quelque chose auquel nous appartient? C'est lui qui est intelligent et qui a raison. Et c'est ça qui est la raison. Autrement, on peut imaginer que dans l'évolution générale, l'argent, je suis un hyper milliardaire, j'achète, ou un groupe d'hyper milliardaires achète la planète et nous serions tous des locataires. Parce que pourquoi? Parce que l'argent a pris tellement d'importance sur la vie qu'aujourd'hui, celui qui a de l'argent s'accapare le maximum. Il devrait y avoir des lois définissant le fait que la planète appartient à l'humanité. Il n'appartient pas à un cartel de milliardaires. Ne peut pas appartenir. En aucun cas appartenir à un cartel de milliardaires. Ça devrait être dans la constitution planétaire. Personne ne peut devenir propriétaire de la Terre. Et bien sûr, je suis petit propriétaire. Quand on me dit, quel est votre logement, vous logez combien? J'ai la chance d'avoir un logement de 20 hectares. Et les autres ont des mètres carrés, moi j'ai des hectares, un peu une. Et donc il devrait y avoir en quelque sorte une réglementation planétaire sur le fait que la planète ne peut pas être accaparée puisqu'elle est le bien commun. De même, nous sommes sur une problématique absolument douloureuse et avec un enjeu terrible, c'est la disparition des semences. C'est-à-dire que les semences depuis 10, 12 000 ans, l'humanité l'a passé d'une génération à l'autre, d'une génération à l'autre, et c'est devenu un potentiel et un patrimoine collectif de l'humanité absolument remarquable, extraordinaire, une richesse, et garant de la vie. Et bien aujourd'hui, 75% de ce patrimoine a disparu. Alors on essaye de placer des OGM, etc. Mauvaise nouvelle, d'à peu près il y a deux Bayer achète Monsanto. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant parce qu'ils vont maîtriser complètement l'histoire des semences. Et l'humanité, si on imagine le scénario tel qu'il peut se dérouler, l'humanité va être prise en étage par ces gens-là. Parce que qui n'a pas de semences ne peut pas vivre. Et comme la semence, c'est la vie, eh bien, à ce moment-là, on risque de tomber dans quelque chose d'extrêmement grave. D'où la nécessité de résister. Nous essayons de faire... De tout faire pour attirer l'attention sur les gens de la nécessité absolue de faire ces semences et de les préserver.
La transition est bonne. On voit des mouvements citoyens naître partout dans le monde, en France. Est-ce que tu penses que c'est plus par rejet de la chose politique, on voit que les politique plutôt que d'être au service du citoyen, soit au service d'eux-mêmes ou au service des lobbies, ou c'est plus parce que le citoyen a l'impression que lui seul a la solution.
Le citoyen a la solution. Coluche, qui était un grand philosophe, on croit que Coluche était un amuseur public. Non, moi j'ai beaucoup apprécié Coluche dans ses remarques. Il dit une chose simple, dire qu'il suffit de ne pas acheter pour que ça ne se vende pas. On ne peut pas résumer plus. Eh bien, n'achetons pas, c'est tout. Et si ça ne se vend pas, les multinationales disparaissent. Seulement, si on se met en dépendance par rapport à tout ça, évidemment, d'un côté, et malheureusement, c'est très difficile de sortir de là. Moi, je ne suis pas venu vous voir en carrosse ou en charrette. Je suis bien venu voir avec une bagnole dans laquelle on a fait le plein. J'ai donné mes sous à je ne sais pas, à Total ou à je ne sais pas qui. Donc, je ne suis pas cohérent. Mais comment je puis faire autrement? Puisque je suis pris dans cette logique-là, j'aurais préféré une autre logique, mais je suis là-dedans. Et à la maison, même si on s'est passé de l'électricité pendant 13 ans, non pas par volonté, mais parce qu'on n'arrive pas à nous l'installer, j'ai l'électricité. Je veux dire, je ne dis surtout pas laisser croire que je suis intègre moi-même. Je suis aussi dans cette contradiction. Et en même temps, dans cette contradiction, on essaye de se dire, est-ce que je peux vraiment changer les choses à partir de ma propre cohérence? Au moins, je suis incohérent, mais j'ai des espaces de cohérence, et ces espaces de cohérence, j'essaie de les vivre. C'est tout ce que je peux faire. Voilà. Et puis propager, et puis démontrer. Et j'ai la chance d'être dans une activité qui est vitale, c'est-à-dire l'agriculture. Et l'agriculture biologique, c'est pas l'agriculture de la destruction de la terre, parce que l'agriculture malheureusement détruit la terre, détruit la diversité, etc. Eh bien, on est là-dedans aussi, on n'est pas que dans les grandes envolées universitaires. On est dans des réalités, heureusement, ancrées. Voilà notre analyse, voilà au moins des solutions concrètes que l'on peut promouvoir. Et ces solutions concrètes, si elles étaient prises en compte par l'État lui-même, eh bien, l'État jouerait beaucoup mieux son rôle que d'être dans la sphère de la politique politicienne, avec des controverses qui ne mènent nulle part, avec des alliances qui sont foireuses, avec la recherche du marché, du profit, etc. etc. Aujourd'hui, il faut des... Et en même temps, on ne peut pas les accuser, les gens de la politique, parce qu'ils sont élus. Bien sûr, un dictateur, il ne vous demande pas votre avis. Voilà, il fait comme ça, et puis c'est fini. Mais quand la politique, à travers la démocratie, me donne le choix, et me reconnaît le choix, et que je choisis, il faut que je choisisse comme il faut. Alors après... on a des difficultés, moi j'avoue que je suis là-dedans, c'est-à-dire que je vote beaucoup plus contre quelqu'un que pour quelqu'un. Parce que le coup de cœur qu'on a comme ça, la confiance de quelqu'un qui nous inspire vraiment, et on a envie de le rejoindre, etc., je n'en vois pas. Parce qu'ils sont obligés de jouer la règle du jeu de la politique telle qu'elle est. Or, c'est la politique telle qu'elle est qu'il faut changer. Alors, très complexe. Comment ?
Le citoyen qui peut changer.
Mais il n'y a que les citoyens qui peuvent. Les citoyens peuvent changer. C'est pour la raison pour laquelle on a créé le colibri. Colibri, la petite légende, il y a le feu, l'incendie de forêt, les animaux atterrés, découragés. Et le petit colibri, il va prendre quelques gouttes d'eau, il les jette sur le feu. Il s'active, et le tatou qui l'observe depuis un moment, qui dit il est complètement cinglé, il dit colibri, c'est quand même pas avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. Le colibri lui dit je le sais, mais je fais ma part. Voilà. Et bien si on était nombreux à faire notre part, on arriverait à quelque chose. Mais ça ne peut pas être par décret. Regarder simplement la télé, voir le débat politique, protester ou adhérer, ne suffit pas. Aujourd'hui, on est dans des réalités matérielle, qui est celle de notre survie biologique par la culture, la terre, etc., qui est la réponse à tous nos besoins de nous abriter, de nous vêtir, de nous soigner. Tous ces besoins-là font partie de nos réalités. Sauf que nous sommes dans une société dans laquelle 30 à 40% des activités humaines sont pour du superflu. Sans compter les armements, qui sont plus que du superflu, sont carrément une horreur absolue que l'imaginaire humain, en tant que tel, a instauré dans cette réalité vivante. Donc aujourd'hui, on est invité à être intelligent. C'est ça le problème. Et que nous ne le sommes pas. Et je ne dis pas que je suis intelligent. Je ne m'exclus pas de ça. Je dis l'humanité n'est pas intelligente. C'est elle-même qui a décrété qu'elle l'était, alors que les extraterrestres qui l'observeraient diraient l'humanité n'est pas intelligente. Voilà. Donc aujourd'hui, ça passe par, non pas par la prise de conscience, parce que ce n'est pas de l'électricité, la conscience. Ce n'est pas la prise de conscience, c'est l'élévation de conscience, c'est-à-dire le travail que peut faire chacun de nous, lui-même, pour son propre changement, sa relation avec les autres, créer de l'amour autour de soi, créer toutes ces choses-là. Et ça, il y a un type auquel je suis attaché qui s'appelait Jésus, qui a parfaitement compris tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il a insisté sur le fait qu'il n'y a que l'amour qui peut changer quoi que ce soit. Il n'y a rien d'autre. Rien. Et bien, c'est absolu. Et il n'a jamais dit, faites-moi des cathédrales, à ma connaissance. Non, j'ai lu l'évangile. Et quand on suit l'itinéraire de cet homme-dieu, enfin, peu importe ce qu'il était, enfin, en tout cas, c'était une grande conscience. Il a amené des réformes extraordinaires. Et si ces réformes, on les avait appliquées, c'est faire de l'amour l'absolu. Et même ses ennemis, etc. Faire de l'amour l'absolu. Je ne suis pas en train de prêcher pour convertir les gens. Je suis simplement en faire de la sociologie simple, très simple. Eh bien, l'amour, c'est la seule chose, à mon avis, qui peut changer le destin de l'humanité.
Pour finir, Pierre, qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui ?
Vous savez, il y a le Pierre Rabhi dans ses engagements, il a de l'énergie, il fait ce qu'il veut. Ça étonne tout le monde que je continue à 78 ans encore à être aussi engagé, un peu au front, etc. etc. Bon, je suis heureux que aujourd'hui, ce qui me rend heureux, c'est que beaucoup de gens adhèrent à ces valeurs qu'on essaie de promouvoir. Et puis il y a le Pierre Rabhi avec ses 51 kilos tout mouillés, qui lui est confronté, comme tout le monde, à ses limites, à ses souffrances, à ses difficultés, on n'est pas affranchi de cela. Donc la seule chose peut-être qui rend heureux, c'est de dire j'aurais participé, si peu que ça soit, j'ai participé à une évolution positive de l'histoire de l'humanité. Même si c'est homéopathique peut-être, mais très souvent, quelque chose de tout petit, c'est ça le miracle de la contamination positive, disons. Moi, je fonctionne comment ? C'est pas en termes quantitatifs. C'est-à-dire, quand j'interviens, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Et toute notre vie a été engagée justement pour être cohérent avec les valeurs intérieures. Les valeurs intérieures, on les a incarnées sur un domaine qu'on a acheté pour essayer de leur donner une réalité. À partir du moment où elles se sont concrétisées, elles peuvent contaminer aussi au plan positif. Et je suis allé en Afrique, et je ne suis pas allé en Afrique pour dire « mes braves gens, vous avez faim ». Non, je suis allé en Afrique en disant « il y a une solution ». Et cette solution, c'est l'agroécologie. Et je ne suis pas resté dans les vœux pieux. L'agroécologie, je l'ai fait appliquer et elle prend extraordinairement. Plus d'engrais chimiques, plus de pesticides, le paysan libéré de son asservissement par tout un système qui lui a fait produire des produits d'exportation, etc. Il régénère sa terre, il le reconnaît, etc. D'où le Sankara, Thomas Sankara, qui me convoque en me disant, il faut que vous preniez le destin du Burkina, le destin agricole du Burkina en main. Voilà. J'ai relaté toutes ces histoires-là, malheureusement, on sait ce qu'il est arrivé à Sankara, alors que c'était un militaire pacifique. Il avait le costume militaire qui serait l'agression, etc. Mais à l'intérieur de lui-même, c'était un type extraordinairement, conscient, intelligent, et finalement pacifique. Et puis, pour ceux que ça intéresse, bah, parfois j'ai consigné ces aventures-là qui sont concrètes, ce ne sont pas des blablas comme ça, éthérés, dans un ouvrage que j'ai intitulé « L'offrande de crépuscule », que j'ai dédié aux femmes parce que ce que j'ai trouvé comme la plus grande énergie qu'il y a en Afrique, c'est celle des femmes. Et elles sont discrètes, ou rendues discrètes, ou mises dans les coulisses, voilà, et c'est elles qui portent la société. Et ce livre, il a été présenté donc sur l'agroécologie comme solution à la faim dans le monde, régénération des sols, etc. Il a été présenté par mon éditeur à un prix du ministère de l'Agriculture. Je lui dis, il n'est pas recevable ce que je raconte là-dedans. Et j'ai été le premier étonné à avoir le premier prix. Donc ce qui veut dire que ça a touché quand même les gens, parce qu'on a tenu aussi à être extrêmement... On a le côté poétique, mais pour les gens de l'administration, la poésie, ça passe pas trop. Donc, il fallait être rigoureux. Vous voulez des chiffres, on vous en donne. Vous voulez des chiffres, vous voulez des processus chimico-physicaux, ce que vous voudrez, on vous donne ça. Vous voulez des analyses de sol, eh ben, on vous en donne. On emmène la terre au laboratoire, le laboratoire fait l'analyse, on vous donne tout ça. Et tout ça a été regroupé, disons, dans ce témoignage, et ce témoignage, ben, il est reconnu comme étant un témoignage juste et efficace. L'agroécologie est très efficace, et je ne pense pas qu'on puisse évoluer en agronomie sans cette voie-là. Sinon, on mourra de faim. Ce qui est en train de se préparer, d'ailleurs, quand on confisque 75% des semences libres. Nous, on se bat comme des beaux diables pour essayer de faire un colère. 75% des semences libres sont déjà confisquées à l'humanité. Ça veut dire qu'on mène l'humanité vers le désastre. Et c'est pour ça qu'on s'acharne à essayer de faire comprendre toutes ces problématiques. Donc, soyons dans la joie. Mais en même temps, c'est difficile d'être dans une joie éclatante en sachant que le bateau coule, quoi. Enfin, bateau coule, ce n'est pas la planète qui coule, c'est l'humanité qui est en train de couler. Donc on essaye, bon, au jour le jour, il y a des jours où on est gai, le lendemain un peu moins gai, le troisième jour, heureusement, il y a l'amitié, il y a l'amour, il y a la relation avec les autres, il y a la relation à la nature, moi c'est ça qui me maintient. Voilà, j'aime ma terre nourricière, je cultive, je suis pris dans beaucoup de choses, mais aujourd'hui il y a une chose absolument non négociable, c'est mon jardin. Et pourquoi c'est non négociable pour mon jardin? Parce que je me relie à la vie, je me relie à la patience de la vie, je me relie aux cadences de la vie. Et ce miracle de mettre une petite graine de rien du tout, d'obtenir des kilos de tomates, vous imaginez que c'est extraordinaire. C'est de la magie tout ça. Une graine comme ça qui vous donne des kilos de tomates. Et chaque tomate est là, encore du graine, et vous ressemez, vous pouvez nourrir le monde. Et bien, on ne voit pas tout ça. Et là, on est dans une espèce d'obscurantisme déguisé de science. Alors il est affublé de science, la science qui est censée faire connaître, elle fait ignorer de plus en plus. Donc voilà, et il faut sortir de tout ça.
Merci.
Merci à vous. Ça vous a convenu ?